Radio Vatican, France et Afrique.
Vous écoutez Radio Vatican, soyez la bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme dont voici les principaux titres. En actualité de l'Église, le pape François a poursuivi mercredi son itinéraire de catéchèse sur la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Les évêques du Congo-Brazzaville ont adressé un message au peuple de Dieu et aux personnes de bonne volonté sur l'année jubilaire du cinquantenaire de leur conférence épiscopale. En actualité sociopolitique, nous reviendrons sur les manifestations en hommage aux victimes de 2020 dans le cadre du mouvement NSARS au Nigeria. Des détails tout à l'heure. Bienvenue encore une fois et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Le Saint-Père a poursuivi son itinéraire de catéchèse sur la lettre de saint Paul aux Galates lors de l'audience générale dans la salle Paul VI du Vatican. François a détaillé la notion de liberté telle qu'exprimée par l'apôtre des gentils aux communautés de Galatie. Delphine Allaire.
Saint Paul introduit les fidèles dans la grande nouveauté de la foi, à savoir la vie nouvelle reçue du baptême, ce grand cadeau. Ainsi, le pape François a débuté sa méditation spirituelle du mercredi. L'évêque de Rome a rappelé combien, en renaissant dans le Christ, nous sommes passés d'une religiosité faite de préceptes à une foi vivante, de l'esclavage de la peur et du péché à la liberté des enfants de Dieu. Ce que l'apôtre Paul considère comme le cœur de cette liberté, a soutenu le Saint-Père, n'est pas une manière libertine de vivre selon la chair ou l'instinct, les désirs individuels et les pulsions égoïstes. Au contraire, la liberté de Jésus nous porte à être, écrit l'apôtre, au service les uns des autres.
La vraie liberté, en altre parole, s'exprime pienamente nella carità.
La vraie liberté, en d'autres termes, s'exprime pleinement dans la charité. Paradoxe de l'Évangile, nous sommes libres en servant, nous nous trouvons pleinement dans la mesure où nous nous donnons et nous possédons la vie si nous la perdons. La liberté croît donc avec l'amour, assure le pape, prévenant qu'elle ne consiste pas à faire ce qu'il nous plaît, car ce type de liberté sans fin et sans référence serait une liberté vide, a rappelé le Saint-Père, exhortant donc à une liberté guidée par l'amour, qui sait écouter sans imposer, aimer sans forcer et qui construit sans détruire.
Rendons-nous en République du Congo où les évêques se sont réunis du 11 au 17 octobre 2021 à Brazzaville à l'occasion de leur 50e assemblée plénière ordinaire annuelle. Les évêques ont adressé un message au peuple de Dieu et aux personnes de bonne volonté sur l'année jubilaire du cinquantenaire de la conférence épiscopale. C'était par la voix de leur président, Mgr Daniel Minzonzo, évêque de Nkai. Nous vous proposons l'intégralité de ce message.
Chers prêtres et personnes consacrées, nous vous invitons à persévérer dans votre vocation et à élargir le champ de la moisson du Christ à travers votre apostolat et votre témoignage de vie. Évitez, fuyez les pratiques païennes et immorales. Comportez-vous comme des ministres du Christ, aux fidèles laïcs. Nous voulons vous rappeler que par votre baptême, vous êtes devenus des chrétiens et donc fidèles du Christ. Nous remarquons qu'au regard des antivaleurs qui gangrènent notre pays, les chrétiens sont loin de faire la différence. Dans les familles, certains de ceux qui maltraitent les orphelins, les veufs, les veuves, ne sont-ils pas chrétiens? Aux acteurs politiques de notre pays, nous vous saluons pour votre engagement dans ce domaine précieux qui vous invite à la loyauté. Certains hommes ou femmes politiques n'ont cherché qu'à privilégier leurs intérêts au lieu de ceux de la nation. On donne l'impression de faire la politique dans le seul but de s'enrichir ou de chercher des postes aux gouvernants. Chers gouvernants de notre pays, votre mission au service de la nation et du peuple congolais. Le peuple n'a pas seulement besoin de discours, mais des faits, des actes. Les antivaleurs prennent le dessus partout et nous assistons malheureusement au détournement, au vol, à l'impunité, à l'injustice, à l'enrichissement d'une minorité au détriment de la majorité. Fils et filles bien-aimés, au terme de ce message du cinquantenaire, nous rendons une fois de plus grâce à Dieu pour ses bienfaits à l'égard de notre Église locale et pour ce que nous avons pu faire ensemble. Oublions ce qui nous divise. Soyons plus unis que jamais. Qu'en faire l'hymne national de la République du Congo.
Vous venez de suivre le message de la conférence épiscopale congolaise par Mgr Daniel Minzonzo, évêque de Nkai. D'un Congo l'autre, Mgr Jean-Crispin Kimbeni, l'un des quatre évêques auxiliaires de Kinshasa, a ordonné deux diacres et trois prêtres dans le camp du diocèse de Matadi. C'était en l'église cathédrale Notre-Dame des Fatima, dans la ville de Matadi, lors d'une messe concélébrée entre autres par Mgr Daniel Landou et Mgr Jérôme Pindi, respectivement évêque émérite et administrateur apostolique de ce même diocèse dimanche dernier. Cette célébration a servi de cadre pour lancer les consultations diocésaines en vue de la préparation du synode des évêques sur la synodalité. Restons en République démocratique du Congo. L'archidiocèse de Kisangani avait reçu la visite du nonce apostolique Mgr Ettore Balestrero dans le cadre du jubilé des 125 ans d'évangélisation de l'archidiocèse. Notre correspondant était sur place.
Le nonce apostolique Mgr Ettore Balestrero a présidé la messe le dimanche 17 octobre dans la cour de l'église paroissiale Saint-Gabriel du quartier Simisimi à Kisangani, dans la province de la Tchopo. C'était pour le jubilé des 125 ans d'évangélisation de l'archidiocèse de Kisangani. La visite pastorale du nonce a commencé dès son arrivée le jeudi 14 octobre. En soirée, il s'est notamment entretenu avec le clergé et le vendredi matin, après la messe dans la chapelle des sœurs franciscaines missionnaires de Marie, Mgr Ettore Balestrero s'est entretenu avec les religieuses et religieux présents avant les jeunes en formation. Il les a exhortés à vivre le cheminement vocationnel dans la foi au Seigneur et à son écoute. Le vendredi 15 octobre, avec l'archevêque de Kisangani et président de la conférence épiscopale, Mgr Marcel Otembi, le nonce apostolique a été accueilli sur des pirogues au beach de la procure d'Isangi par la communauté diocésaine d'Isangi et l'évêque Mgr Diodene Madrapile. Le nonce a présidé une messe dans la cathédrale Marie Médiatrice d'Isangi pour la célébration du premier centenaire d'évangélisation du diocèse. À l'homélie, le nonce apostolique a insisté sur la nécessité d'une évangélisation en profondeur afin de poursuivre l'œuvre missionnaire réalisée par les missionnaires de Skeut, puis les Montfortins et les missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Témoins des bienfaits du Seigneur, vivons la solidarité. Tel était le thème de Journée diocésaine de Dapan, dont la session avait pris fin jeudi 14 octobre 2021, après trois jours d'intenses travaux. Notre correspondant était sur place.
Présidée par l'évêque du lieu, son Excellence Mgr Dominique Gigbil, cette grande rencontre de la famille diocésaine a réuni une centaine d'ouvriers de l'Évangile, prêtres, religieux, religieuses, délégués des catéchistes et délégués de fidèles laïcs des conseils pastoraux. Ce thème a été développé par le révérend père Benoît Odanou, secrétaire général de l'OCDI Caritas Togo. Dans son exposé, il a conduit les représentants de l'Église Famille de Dieu qui est à Dapan à prendre davantage conscience des bienfaits du Seigneur à notre égard et à faire de même pour les autres. À l'écoute de Jésus, notre maître et notre modèle, nous sommes appelés à vivre la solidarité intégrale, spirituelle, morale et matérielle, avec une attention particulière aux humbles, aux pauvres, aux petits, aux laissés pour compte, et à être de bons samaritains les uns pour les autres dans une société malade de la mondialisation de l'indifférence, a-t-il souligné. Mgr Dominique, pour sa part, a félicité le conférencier et les participants pour la qualité des échanges et l'intérêt dont ils ont fait montre pour la mise en œuvre des recommandations assorties de ces journées. Pour lui, la solidarité rythme bien avec le thème du synode des évêques convoqué par le pape François. Gustave Wam, Dapan pour Radio Vatican.
Avant de conclure cette page de l'actualité de l'Église, nous vous annonçons qu'à partir du 31 octobre 2021, date coïncidant avec le passage à l'heure d'hiver et suivant les directives de la conférence de coordination des services de radiodiffusion en ondes courtes, les changements de fréquence suivants seront nécessaires. Notre émission des 17h juste en temps universel passera à 11 935 kHz, bande de 25.19 mètres et 9 705 kHz, bande de 30.91 mètres. Celle de 20h30 en temps universel passe à 7365 kHz, bande de 40.73 mètres et 6010 kHz, bande de 49.91 mètres. En espérant que ce changement vous donne satisfaction, nous vous remercions de vos remarques sur une éventuelle défaillance technique.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
La jeunesse nigériane rend hommage un an après aux victimes de la sanglante répression du mouvement Endsars contre les violences policières en manifestant mercredi matin à Abuja et à Lagos où au moins 6 personnes ont été arrêtées. Françoise Niamien.
Depuis 7h du matin à Lagos, une petite centaine de voitures ont traversé en agitant des drapeaux le péage de Lekki, lieu emblématique de la contestation où l'armée et la police avaient ouvert le feu le 20 octobre 2020, causant la mort d'au moins 10 personnes et mettant ainsi fin au mouvement. Les quelques dizaines de policiers déployés ont laissé les voitures traverser le péage dans des concerts de klaxons. Mais ils ont arrêté au moins 6 personnes, des manifestants qui s'étaient rendus à pied sur le péage. À Abuja, la capitale fédérale, entre 50 et 100 personnes se sont rassemblées dans le parc de la Fontaine de l'Unité, scandant « Le peuple uni ne sera jamais vaincu ». Avant de marcher en direction du ministère de la Justice, où un camion de la police les a empêchés de continuer leur route. Rappelons que selon Amnesty International, au moins 56 personnes ont été tuées dans tout le pays durant les semaines de contestation du mouvement Endsars.
L'armée éthiopienne a lancé une attaque aérienne contre Mekelle, la capitale de la région septentrionale du Tigré, pour la deuxième fois cette semaine, ont indiqué mercredi des sources humanitaires, diplomatiques et un résident de Mekelle. Signalons que 3 enfants avaient été tués et plusieurs personnes blessées lors des frappes aériennes menées lundi par l'armée éthiopienne sur Mekelle, la capitale du Tigré en guerre, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Au moins 50 personnes sont mortes dimanche en République démocratique du Congo après que leur véhicule se soit renversé dans une rivière de la province minière du Haut-Katanga, dans le sud-est du pays, avait-on appris mardi de sources officielles. Par ailleurs, dans la province voisine du Lualaba, riche en cuivre et en cobalt, le déraillement d'un train de marchandises a causé la mort de 9 personnes et fait 36 blessés dont 11 graves, a déclaré Adeoda Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba.
Radio Vatican, France-Afrique, Donatien Niembo.
En Côte d'Ivoire, un gendarme a été blessé et un assaillant tué mardi dans une attaque près des Téhini, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, une région frontalière du Burkina Faso déjà frappée par des présumés djihadistes, a indiqué un responsable local. Une enquête est en cours pour déterminer l'identité des assaillants qui se déplaçaient à moto, a précisé cette source sous le couvert de l'anonymat. Des militaires français ont tué une femme lundi dans la région de Gossi dans le nord du Mali, alors qu'ils poursuivaient 2 personnes qui venaient d'abandonner une moto transportant une arme et des munitions, a annoncé mardi l'état-major dans un communiqué. Cette annonce intervient parallèlement à des rumeurs sur les réseaux sociaux accusant la force française Barkhane d'avoir tué lundi une jeune fille de 13 ans lors d'un raid aérien dans la commune d'Entilit au sud-ouest de Gao. Notre programme se poursuit avec Marie-Josée Mwando-Bouaboualo qui nous présente le magazine sur les organisations internationales et la solidarité.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement
et de la solidarité entre les peuples.
Notre magazine sur les organisations internationales et la solidarité concerne l'importance culturelle, sociale et économique du thé et du café. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, s'est joint aux experts mondiaux de l'industrie dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de l'alimentation. Des experts mondiaux du thé et du café se sont réunis à cette occasion pour célébrer ces deux breuvages les plus populaires au monde et témoigner de leur importance culturelle, sociale et économique, mais aussi explorer leur rôle dans la transition vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables. Le dialogue sur le thé et le café qui s'est tenu dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de l'alimentation organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a mis en avant l'importance de la source de revenus et d'emplois vitale pour des millions de personnes dans les pays en développement que représentent ces deux filières. On estime que les petits exploitants et les ménages agricoles assurent 60% de la production mondiale de thé et 80% de la production mondiale de café. Des millions de personnes, y compris des femmes et leurs familles, vivent de leur travail dans ce secteur et contribuent ainsi de manière importante à la concrétisation des objectifs de développement durable du programme 2030. Par la rencontre que nous organisons, nous renouvelons notre engagement à célébrer la paix, l'unité et les échanges entre les civilisations et les cultures, a déclaré à cette occasion le directeur général de la FAO, M. Kyung Dong-yung, dans son allocution d'ouverture. Il est aussi l'occasion de mettre en exergue les réalisations des producteurs de thé et de café du monde entier et de nous rappeler ensemble les défis que nous devons affronter. Cette manifestation qui a mis en lumière l'élément clé que constituent les productions de thé et de café pour la transformation des systèmes agroalimentaires a permis d'aborder les problématiques que doivent aborder ces secteurs et les acteurs de leurs filières, à savoir crise climatique, durabilité, faible productivité, volatilité des prix et compression des coûts. La table ronde a permis de dégager des solutions susceptibles de surmonter ces défis et de s'emparer de nouveaux créneaux de marché en apportant des réponses satisfaisantes aux questions de durabilité que soulève la production des deux breuvages, en vue de préserver la viabilité des secteurs du thé et du café et d'assurer aux familles exploitantes une source de revenus durable. M. Kyung Dong-yung a souhaité voir avancer des solutions concrètes tant au stade de la production qu'à celui de la consommation ainsi qu'à l'intérieur des filières. Cette discussion a permis d'asseoir notre détermination en faveur de la durabilité des filières du thé et du café en les situant en avant-plan des politiques publiques, a-t-il déclaré. Au vu des nombreux avantages qu'elle offre et des défis qu'elle suscite, la production de thé et de café ressort comme un élément important de la transformation des systèmes agroalimentaires en vue d'une amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie. Le nouveau cadre stratégique de la FAO articulé sur ces quatre objectifs, à savoir amélioration de la production, amélioration de la nutrition, amélioration de l'environnement et des conditions de vie sans laisser personne de côté, vise à accompagner la concrétisation de ces objectifs et la réalisation du programme 2030.
Dans le cadre de notre rubrique consacrée à la jeunesse, nous donnons la parole à sœur Elvira Toutola de la Congrégation de la Charité Sainte-Jarne-Antide de Touré en mission en République centrafricaine. Fondatrice de l'ONG Kizito, une structure en charge des enfants de la rue, sœur Elvira nous parle de cette expérience avec ses enfants.
Notre aventure à Berberati, c'est une ville à l'ouest de Bangui, de la capitale de la Centrafrique. Notre expérience a démarré la nuit. La nuit, pourquoi? Parce que pour mes collaborateurs du centre culturel m'ont fait cette invitation de sortir la nuit. J'ai eu un peu de crainte parce que nous n'avons pas encore d'électricité. On n'a pas d'électricité dans la ville, donc il s'agissait de sortir dans la nuit avec une torche. Et l'impact a été très très fort parce que c'était minuit, c'était presque 1 heure du matin. On a rencontré des enfants qui dormaient là, par terre, sur un morceau de carton, sur la table du marché. Le jour après, on a invité les enfants à venir au centre culturel, là où l'évêque m'avait confié. Et un des papas, qui sitôt, parce que moi je suis vraiment contraire à l'orphelinat, l'orphelinat ne répond pas aux besoins des enfants. Et un papa, une des familles qui ont accueilli les enfants, des familles centrafricaines du lieu, a raconté l'histoire des martyrs de l'Ouganda. Quand il a raconté cette histoire, que le chef du village avait assassiné les enfants, et le plus petit qui, sitôt, avait dit à la maman, « Non, moi aussi, je ne peux pas trahir mes frères. » Et en ce moment-là, comme si je vois maintenant encore l'image, j'étais présent, les enfants ont levé la main en disant, « Nous, on veut s'appeler Kisito, parce que nous voulons être courageux comme Kisito. » Voilà, c'était le premier groupe d'enfants que de la rue ont été invités à venir là, cette petite bibliothèque. Donc c'est eux-mêmes, ce premier groupe de 10 enfants, qui ont choisi le nom de Kisito, qu'ils voulaient être courageux comme Kisito. Quand il y a eu les couples, les familles qui ont commencé à accueillir les enfants, parce que j'avais dit non à l'orphelinat, on a commencé une formation avec les couples et on commençait. Donc c'est devenu les familles Kisito, c'est devenu les couples Kisito, donc le projet Kisito.
Et le projet Kisito, donc, non seulement un projet pour les enfants, mais un projet pour les enfants et les familles d'accueil. Comment vous arrivez à situer cela dans la culture locale, dans la culture centrafricaine?
Ah, c'est très, très beau. Ça a été très beau parce que déjà, je n'ai pas fait quelque chose en opposition ou au contraire. On sait très bien que l'accueil pour les Africains, pour les Centrafricains, est normal, hein, normal. Bien sûr, on accueille des enfants qui sont du même sang, hein, dans le sens le neveu, le fils de l'oncle, comme ça, donc sont des familles élargies. Mais ça n'a pas empêché, donc j'ai pensé de faire valoriser déjà cet aspect qui est très fort, pour une formation des couples qui, petit à petit, ont accueilli des enfants qui ne sont pas du sang. Donc, c'est devenu les enfants du ventre, ils disent, et les enfants du cœur. Mais finalement, quand on est ensemble, non, tous maintenant, on est devenu une grande fraternité. Kisito, les couples, les enfants qui ont déjà grandi, et ils sont devenus jeunes couples. On dit les enfants du ventre, les enfants du cœur, mais finalement, qu'est-ce que c'est plus important, le ventre ou le cœur? Alors, tout le monde, le cœur, le cœur. En plus, la République centrafricaine, en langue locale, s'appelle B-Africa, non? B, c'est le cœur.
Oui. Voilà. Et vous venez aussi de participer à la rencontre de la 20 en Italie. En quoi consistait cet événement? Qu'est-ce que vous ramenez de cet événement dans votre mission et dans votre expérience aussi comme fondatrice d'une ONG qui s'occupe d'enfants?
J'ai participé, pas totalement parce que c'était par étapes, Milan, Rome, la Calabria, mais je suis de la région Molise, Abruzzo et Molise, donc j'ai participé volontiers. Il y avait des jeunes, il y avait des représentants de différents pays. J'aurais voulu vraiment que des jeunes Kisito soient présents, parce que c'est eux qui doivent parler les premiers. Mais ça a été difficile de les faire venir.
Oui, et vous avez amené leur message.
Oui.
Quel message vous avez amené?
Voilà. Le désir, l'espoir des jeunes. Il y avait des jeunes qui fréquentent le lycée. J'ai dit, vous savez, vos amis là-bas, ils n'ont pas la possibilité de fréquenter l'école. J'ai vu les jeunes pressants. Ils étaient étonnés quand j'ai parlé de la situation des jeunes banguiers, de toute la RCA, des situations vraiment difficiles, hein, de participation à l'école. Et ils étaient très, très touchés. J'ai eu l'occasion de partager avec eux, hein, de la situation politique, économique du pays. Alors tout le monde voulait réagir. Ah non, il faut faire un projet. Nous, on voudrait même venir. J'ai dit, bon, attendez encore un moment, la situation ne favorise pas.
Sœur Elvira Tutola de la Congrégation de la Charité Sainte Jeanne Antide Touré, fondatrice de l'ONG Kizito à Berberati en République Centrafricaine. Elle répondait aux questions de Marie-Josée Moindo-Boisboilou. Nous vous annonçons qu'à partir du 31 octobre 2021, date coïncidant avec le passage à l'heure d'hiver et suivant les directives de la Conférence de coordination des services de radiodiffusion en ondes courtes, les changements de fréquence suivants seront nécessaires. Notre émission des 17h juste en temps universel passera à 11 935 kHz, bande de 25.19 mètres et 9 705 kHz, bande de 30.91 mètres. Celle de 20h30 en temps universel passe à 7365 kHz, bande de 40.73 mètres et 6010 kHz, bande de 49.91 mètres. En espérant que ce changement vous donne satisfaction, nous vous remercions de vos remarques sur une éventuelle défaillance technique.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Donatien Nimbo. Ne ratez pas notre prochain rendez-vous, demain, même heure, même fréquence, même radio.
Ma vie c'est le Christ et son évangile, je veux être à lui, être son ami, je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé. Et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh.